Dans cette histoire du premier Noël, l'histoire de l'entrée de Jésus-Christ dans le monde, nous lisons quelque chose d'étonnant. Quand Joseph et Marie sont allés à Bethléem pour le recensement, il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Tout le monde fête Noël aujourd'hui et des statistiques diffusées au journal télévisé nous communiquaient le Belge dépense en moyenne environ 120 euros par personne pour les cadeaux et les achats de nourriture de réveillon. Plus du double de ce qu'ils vont dépenser pour la Saint-Sylvestre, donc c'est la nouvelle année, 31 décembre. Alors, pour les commerçants, c'est une affaire assez juteuse. C'est bien, ça remplit les caisses. Noël est en passe de devenir une énorme boom commercial, et il l'est déjà, je pense. Mais pour nous chrétiens, Noël est tellement plus que cela. Bien sûr, il y a dans cette fête, qui n'est pourtant pas la plus grande fête chrétienne, Noël n'est pas la plus grande fête chrétienne, c'est plutôt Pâques qu'il l'est. Mais il y a tout un aspect de merveilleux, de poésie, une ambiance souvent familiale, une chaleur, toutes choses auxquelles nous aspirons tous. Noël sans sapin, sans lumière, sans dinde, ce ne serait pas vraiment Noël. Du moins au sens traditionnel du terme. Mes parents sont des passionnés de lumière, donc... Dans le quartier à Waterloo, il y a une maison qui a des lumières, c'est celle de mon père. Il se prend une passion à décorer, à mettre plein de lumières. Il n'y a aucun mal à faire la fête, surtout si elle permet de resserrer les liens, familiaux ou amicaux, souvent mis à part par nos vies professionnelles aujourd'hui. Mais le vrai sens de Noël, même s'il est vrai qu'il peut transparaître dans nos fêtes humaines, et dans l'expression de la joie qu'ils sont censés drainer avec elle, ce vrai sens est encore et toujours à redécouvrir. Et c'est ça que je voudrais redécouvrir avec vous ce matin. Je vais prendre le passage dans Luc chapitre 2, versets 1 à 7. En ce temps-là, l'empereur Auguste publia un édit qui ordonnait le recensement de tous les habitants de l'Empire. Ce recensement est le premier du genre, eut lieu à l'époque où Quirinius était gouverneur de la province de Syrie. Tout le monde allait se faire recenser, chacun dans la localité dont il était originaire. C'est ainsi que Joseph, lui aussi, partit de Nazareth et monta dans la Galilée, en Judée, à Bethléem, la ville de David. Il appartenait en effet à la famille de David. Il s'y rendit pour se faire recenser avec Marie, sa fiancée qui attendait un enfant. Or, durant leur séjour à Bethléem, arriva le moment où Marie devait accoucher. Elle mit au monde un fils, son premier-né. Elle lui mit des langes et le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'avait pas de place pour eux dans la pièce réservée aux hôtes. Le jour venu de la naissance du Sauveur, un couple insignifiant est en route vers une cité un peu insignifiante pour obéir à l'édit de recensement de celui qui était à l'époque le maître du monde, César Auguste. Notez que cet empereur est un petit peu atypique. Pourquoi ? Par rapport à ses prédécesseurs, parce que lui, il a déclaré qu'il préférait se savoir aimé dans le cœur de ses sujets plutôt que d'être adoré comme un dieu. Quoi qu'il en soit, Marie et Joseph sont juifs, ils sont très pauvres, et un doute plane sur la légitimité de l'enfant que porte Marie. Les évangiles nous parlent sans guère de détours, et ils se sont mis en route non pas pour accomplir un pèlerinage ou un rite religieux, mais simplement pour satisfaire à leur obligation civile de citoyen romain d'un pays sous tutelle romaine. Ceci m'amène à mon premier point. On n'a pas fait de place pour Jésus lors de sa naissance. Ceci est peut-être pas étonnant, mais moi je trouve ça étonnant sur deux plans. Le premier, c'est que c'est étonnant sur le plan humain. Il n'est pas étonnant qu'il n'y ait plus de place dans la petite hôtellerie à Bethléem. Bethléem était un petit village sans importance à quelques 7 kilomètres environ de Jérusalem. Donc César Auguste, je disais premier empereur de l'Empire romain, avait décrété un recensement. Israël était donc sous l'autorité romaine et tout juif devait retourner dans sa ville natale ou la ville de son héritage. Joseph devait se faire inscrire à Bethléem parce que c'était le lieu de naissance de David 1000 ans auparavant. Parce qu'il était de la lignée de David, Marie voyageait avec Joseph. Maintenant, normalement, il n'était pas nécessaire pour les femmes d'accompagner, de venir payer leurs taxes en personne. Mais Joseph a peut-être pris Marie avec. Ce n'était pas un voyage facile, une marche à pied, Et je ne sais pas combien, quand est-ce qu'ils sont arrivés exactement, ni combien de temps ils étaient à Bethléem, mais Luc nous dit, pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Elle enfanta son premier fils, et l'emmailleta et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Moi, je peux vous dire que par expérience, ce n'est pas très intéressant ni agréable de trouver un logement quand il n'y a pas de place. Plus d'une fois, j'ai eu l'incroyable chance de pouvoir voyager en Europe, au Canada, au Moyen-Orient. Et il arrivait quelques fois où il n'y avait pas d'endroit où on était logé. Je me souviendrai toujours, en cette période de Noël, j'étais bloqué à Vancouver à cause d'un grand brouillard à Londres. Et comme Londres est un centre pour les avions, tous les avions passent par là, entre les États-Unis et l'Europe, eh bien tous les avions étaient au sol. Je me suis donc retrouvé à Vancouver dans l'aéroport et on ne voulait pas que je parte. L'avion était coincé au sol. Je travaillais pour une organisation missionnaire qui s'appelait Jeunesse en Mission. Et j'ai donc cherché leur base de Jeunesse en Mission à Vancouver en essayant de trouver un logement. J'arrive au premier endroit, c'est un club de boxe. Le site web n'est pas à jour. J'arrive au deuxième endroit, c'est un paquis. Ça devient embêtant, il n'y avait plus d'endroit pour moi pour loger. Par les circonstances du Seigneur, une famille m'accueille chez eux, que je ne connaissais pas. C'était assez incroyable. Mais je me retrouvais sans logement pendant la nuit au milieu de Vancouver. J'avais 19 ans, ça faisait peur. Je me rappelle également d'avoir voyagé en équipe avec une équipe de ministère en évangélisation en Espagne. On est arrivé dans une église espagnole et les Espagnols ont quelque chose de caractéristique, c'est qu'ils sont très très cool. Donc ils vont s'inquiéter du logement des gens qui vont venir chez eux à partir du moment où ils voient les gens qui sont chez eux. Donc parfois ça peut créer quelques problèmes techniques. Donc on a fini par dormir dans l'église. Heureusement il y avait un canapé pour moi dans l'église, c'était encore heureux. Mais cette nuit-là à Bethléem, il n'y avait pas de pasteur, pas de téléphone, pas de voiture et pas de place à l'hôtellerie. Il n'est pas étonnant que l'hôtellerie du petit village de Bethléem n'ait pas de place, étant donné que le village était rempli à cause du recensement. Mais il est quand même étonnant que personne n'ait pris pitié de ce couple, de cette jeune mère qui était sur le point d'accoucher de son premier bébé. Personne n'a offert sa place. Personne n'a offert de dormir à leur place dans l'étable. Qu'est-ce que vous auriez fait si vous avez été là ce soir? Auriez-vous offert votre place? Il y avait de bonnes raisons pourquoi il n'y avait pas de place. Le recensement avait amené beaucoup de monde et le petit village était rempli de visiteurs. Mais il y a toujours de bonnes raisons pourquoi on ne fait pas de place pour Jésus. Nous sommes trop occupés, trop chargés, trop stressés. J'ai pas le temps, j'ai pas assez d'argent. J'ai pas envie. On a toujours nos raisons pour ne pas donner de place à Jésus. En plus d'être étonnant sur le plan humain, c'est également étonnant sur le plan divin. C'est étonnant que personne n'ait voulu céder sa place à cette femme, à cet enfant. Personne ne voulait lui faire de place et c'est encore plus étonnant quand nous considérons de qui il s'agissait. L'enfant dans la crèche était le Fils de Dieu. C'est lui qui avait tout créé, tout ce qui existe, tout l'univers, toute la place qui soit, pour ainsi dire. Mais il n'y a pas de place pour lui. Michée, un prophète de l'Ancien Testament, illuminé d'une préscience étonnante, prophétise sur Bethléem, sur cette petite localité de Judée. Il lui annonce la naissance en ses murs du roi des rois, du sauveur du monde. Michée, chapitre 5, versets 1 à 4. « Et toi, Bethléem Ephrata, déclare le Seigneur, tu es une localité peu importante parmi celles de la famille de Juda. Mais de toi je vais faire sortir celui qui doit gouverner en mon nom le peuple d'Israël, et dont l'origine remonte aux temps les plus anciens. Le Seigneur va abandonner son peuple en attendant le moment où la femme qui doit être mère aura un fils. Ceux qui auront survécu à l'exil viendront rejoindre alors les autres Israélites. » Et lui, le chef promis, conduira fermement le peuple en manifestant la puissance et la présence glorieuse du Seigneur, son Dieu. Les gens de son peuple vivront en sécurité, car on reconnaîtra sa grandeur jusqu'aux extrémités de la terre. C'est lui qui amènera la paix. Ici, nous avons l'annonce d'un roi. Jean nous dit également, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle. Rien de ce qui était fait n'a été fait sans elle. Elle était la vie, et la vie était de la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Je passe au verset 14. La parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique, venu du Père. Le Fils, il a tout fait. Il a tout créé. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La terre, la mer, les montagnes, les vallées, les arbres, les oiseaux, les fleurs, la faune, la terre, la lune, le soleil, les centaines de milliards d'astres, toute la distance entre les astres, des milliards d'années-lumière, tout l'espace de l'univers, si vous voulez, toute la place ou tout le vide. La Bible nous enseigne que nous sommes face à la parole d'un Dieu qui sait tout, d'un Dieu qui a un plan pour le salut de l'humanité, qui aime tellement les hommes qu'il ne peut s'empêcher, au travers de certains d'entre eux qu'il s'est choisi, de parler de ce plan et de sa réalisation prochaine. Philippiens, chapitre 2, 5 à 8. « Ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus, lui dont la condition était celle de Dieu. Il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé en lui-même, en prenant la condition d'esclave. » En devenant semblable aux hommes, après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 9. « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. » Nous avons ici la Bible qui nous parle de Dieu qui est venu sur terre, qui a abandonné sa royauté pour venir parmi nous. Le mystère pourtant reste entier, d'autant qu'il s'accomplit sans bruit, sans éclat, sans magnificence, sans jamais vouloir forcer la foi des hommes. Et cet enfant, Dieu va le faire naître dans la précarité, dans le dénuement le plus total, loin de la foule, et n'aura pour premier témoin de sa venue que des bergers, des parias, des laissés pour compte, des gens que la loi considérait comme impurs, parce qu'ils vivent parmi leurs bêtes. Je parle des bergers. Je ne sais pas si vous connaissez un peu les Philippines. Il y a une grande ville là-bas, après la catastrophe qui s'est passée récemment. Il y a une ville qui s'appelle Manille aux Philippines, et là, environ 1,5 million d'habitants. 1,8, pardon. Il y a un très grand dépôt d'ordures. Énorme. C'est devenu une ville. Il y a des milliers et des milliers de gens qui habitent ce dépotoir. Ils vivent des ordures qui y sont déposées. Chaque jour, les enfants sont envoyés par leurs parents chercher quelque chose qu'ils peuvent utiliser, quelque chose que d'autres personnes ont rejeté. Ils y construisent leurs cabanes dans des dépotoirs, les déchets des autres. Donc les maisons sont faites d'ordures. Ils mangent la nourriture que d'autres personnes ont jetée dans la poubelle. Il y a des gens qui sont nés dans le dépotoir de Manille. Ils ont grandi et ils ont commencé leur propre famille. Toujours en habitant le dépotoir. Bien sont morts dans ce dépotoir. Ils y sont nés, ils ont grandi là-bas, ils sont morts dans le dépotoir sans jamais visiter d'autres parties de la ville de Manille. C'est vraiment étonnant, mais c'est vrai. Mais ce qui est encore plus étonnant, c'est qu'il y a des gens de multiples nationalités qui habitent ce dépotoir. Ce sont des missionnaires qui ont décidé de toucher les gens avec l'évangile de Jésus-Christ. Et il fallait qu'ils habitent dans le dépotoir pour partager leur foi. Jésus était riche et il s'est fait pauvre pour nous enrichir. Il a quitté sa place pour venir parmi nous. Il est venu comme lumière et vie pour nous. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueilli. Jean chapitre 1 verset 5. On ne l'a pas accueilli, on ne lui a pas offert de place. Ceci nous déclare la façon dont Dieu agit, pas sur des concepts humains. Il ne choisit pas un prince ou un roi pour s'incarner, mais bien un milieu très pauvre. Dans notre ère de capitalisation, capitalisme financier, où l'argent a le pouvoir, parfois presque souverain, Dieu nous donne ici une autre définition de puissance. Parfois, je remarque que je commence à croire que mon influence dépend directement du chiffre sur mon compte en banque. Je ne sais pas si vous avez ça parfois. Et comme il est plus souvent en bas qu'en haut, je me demande comment ces pensées s'influent dans ma tête, parce que je pense que je n'ai pas beaucoup d'influence. La Bible nous enseigne ici que l'argent n'est pas important. Si on doit le définir, ce n'est qu'un outil. Et nous devons faire attention à ce qu'il ne devienne pas ce qu'il nous définit. Si l'argent est ce qu'il nous définit, c'est une bien pauvre définition. Nous avons tellement plus de valeur. Dieu, dans toute sa splendeur, avait quand même préparé un accueil pour son Fils. Hébreux, chapitre 1, verset 6. Et quand de nouveau il introduit le premier-né dans le monde, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Luc 2, 13 à 14. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste qui louait Dieu et disait « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Des bergers, Luc chapitre 2, 8 à 20, étaient des gens méprisés comme des voleurs, mais Dieu les avait envoyés comme un comité d'accueil. Est-ce que vous vous êtes jamais posé la question pourquoi est-ce que Dieu il avait envoyé les bergers et pas le grand sacrificateur de Jérusalem? Peut-être on connaît la réponse, peut-être pas. Mais c'est parce que Dieu, il voit dans le cœur des hommes. Il ne regarde pas aux actions, aux choses extérieures, mais il regarde ce qui est à l'intérieur. Et moi, je suis certain que ces bergers, malgré leurs pauvres conditions, c'était des hommes saints. C'était des hommes qui espéraient le Messie. Des hommes qui étaient dans l'attente et qui étaient humbles de leurs conditions. Et Dieu les a choisis comme personnes qui étaient à côté des grands mages. C'était des païens, mais c'était quand même des divinateurs, des gens de pouvoir. Donc plus tard, des païens de l'Orient, appelés des mages, ils étaient des astronomes et des astrologues. On mélangeait un peu la science et tout ce qui était rite religieux. C'était un peu mélangé. Ils ont vu une étoile qui avait annoncé l'arrivée du roi des Juifs. Puisqu'ils cherchaient le roi des Juifs, ils sont allés à Jérusalem, à sa recherche. Et ils ont demandé où ils pouvaient trouver celui qui est né roi des Juifs. Le roi Hérode même fut troublé, parce que nous lisons dans Matthieu chapitre 2, verset 3, et tout Jérusalem avec lui. C'est beaucoup de monde. Hérode a consulté les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Il savait que les prophéties avaient clairement parlé de sa venue. Tous les Juifs à cette époque-là attendaient leur Messie. Et aujourd'hui, les Juifs l'attendent encore. Christ serait né à Bethléem, ils ont dit. Et ils savaient que sa venue était prédite. Ils savaient qu'ils étaient l'espérance d'Israël, mais ils ne l'ont pas accueilli. Ils n'étaient pas contents de la nouvelle, ils n'étaient pas débordés de joie, ils étaient troublés. Hérode a fait appeler les mages en secret. Il s'est fait préciser par eux l'époque de l'apparition de l'étoile. Puis, il les a envoyés à Bethléem en disant... Allez et prenez des informations précises sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que moi aussi je vienne l'adorer. Voir Matthieu chapitre 2. Mais Hérode ne voulait absolument pas adorer l'enfant roi. Il n'avait pas de place dans son cœur pour Jésus. Il n'y avait pas de place dans tout le royaume pour un concurrent au trône d'Hérode. Quand Hérode a compris que les mages ne viendraient pas pour leur enseigner, il a envoyé ses forces armées et tué tous les enfants de 2 ans et en dessous qui étaient à Bethléem. Et dans son territoire. Joseph avait été divinement averti dans un songe et pris le petit enfant et sa mère et ont fui en Égypte. Quel acte abominable de tuer tous les enfants d'une ville pour garder sa place. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour garder Jésus loin? On n'a pas fait de place non plus pour Jésus pendant sa vie. Deuxième point. Toute la vie de Jésus était caractérisée par un manque d'accueil. Jean nous dit qu'il est venu chez les siens, les juifs, et les siens ne l'ont pas reçu. Il n'était guère accepté par les juifs, il n'était pas accepté par les samaritains. Dans Luc 9, 52-53, il traversait la Samarie en route pour Jérusalem, mais les samaritains ont refusé de le recevoir parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Luc 9, il a dit lui-même, « Les renards ont des tanières et les oiseaux ont des nids. » Mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer sa tête. Il n'y avait pas de maison, Il avait tout abandonné pour prêcher la bonne nouvelle. Il était un SDF, sans domicile fixe. SDF du ciel. Intéressant. Il logeait parfois à la maison de Pierre, parfois chez Marie, Marthe et Lazare, parfois à la Belle Étoile. Après une année de popularité avec le peuple, il était poursuivi par les autorités religieuses. Quand les pharisiens ont appris qu'il faisait plus de disciples que Jean-Baptiste, Jésus a dû quitter la Judée. Jean 4. À plusieurs reprises, ils ont cherché à lui ôter la vie, mais son heure n'était pas encore venue. Jean 7. Ils l'ont harcelé de questions, cherchant toujours l'occasion qu'il puisse se tromper. Mais ils n'ont jamais remporté un succès contre lui. Un jour, vers la fin de son ministère, Jésus a appris que son ami Lazare était malade. Finalement, Lazare est mort. Retournons en Judée, Jésus dit à ses disciples. Rabbi, Rabouni, les Juifs, tous, récemment, cherchent à te lapider. Et toi, tu veux y retourner. Il y est allé, il a appelé Lazare du tombeau. Mais après ce miracle, les autorités complotaient pour le faire mourir. C'est marrant comme quoi les gens perdent peur de leur place. Bien des gens ne donnent pas la place à Jésus parce qu'ils ont peur de perdre la leur. Parfois, ça nous arrive à chacun d'entre vous. On veut garder le contrôle de notre vie, de peur de perdre le sentiment de puissance, de pouvoir qu'on a, le sentiment de contrôle. Jean 11, 47 à 53. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin, qui était un concile religieux, et dirent : qu'allons-nous faire ? Cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui. Et les Romains viendront nous enlever et notre Lucien et notre nation. Les principaux sacrificateurs et les pharisiens avaient peur de perdre leur place. Certainement, il n'y avait pas beaucoup de gens qui ne voulaient pas faire de place pour Jésus. Ils ont peur que Jésus prenne toute la place. Ils ont peur des changements. Donc, on le garde loin de nous. Est-ce que je pourrais avoir un verre d'eau ? Merci. Finalement, on a trouvé une place pour Jésus quand même. Pas comme le roi Hérode, qui n'avait pas de place pour lui, il voulait rester roi. Pas comme les sacrificateurs, qui voulaient garder une nation d'Israël entière. Ils avaient peur que les Romains arrivent. Mais finalement, on a trouvé une place pour Jésus sur la croix. Disons qu'ils l'ont conduit au lieu nommé Golgotha. Ils l'ont suspendu entre le ciel et la terre. Merci. Là, ils l'ont crucifié. Ils lui ont trouvé une place pour Jésus sur la croix. Jésus avait dit dans Jean 12, « Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je, Père, sauve-moi dans cette heure. Mais c'est pour ça que je suis venu jusqu'à cette heure. Maintenant, c'est le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été enlevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Il disait cela pour indiquer de quelle mort il devait mourir. Oui, on a trouvé une place pour Jésus, mais cette place, c'était notre place. C'est nous qui avons mérité la mort, le salaire du péché. C'est la mort, cette séparation éternelle avec Dieu. Parfois, on va dans des définitions compliquées de l'enfer. On imagine ce grand endroit plein de feu et de flammes. Mais à la fin, les gens qui vont en enfer, c'est les gens qui ont ce qu'ils veulent. Une vie séparée de Dieu, une éternité séparée de Dieu. Ça ne reste que ça. Et ce n'est pas difficile à croire qu'un endroit sans Dieu est un endroit de pleurs et de grincements de dents. Il est venu pour donner sa vie en rançon pour beaucoup. Il est né pour mourir à notre place. Il m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi, dit Paul. La croix était ma place, elle était votre place. Esaïe a dit, il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de tous. Caïphe, qui avait peur de perdre sa place, a dit, « Vous n'y entendez rien, vous ne rendez pas compte qu'il était avantageux pour vous qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Dès ce jour, ils résolurent de le faire mourir. » C'est cela la signification de Noël. Dieu s'est fait chair et a demeuré parmi nous. Jésus-Christ est venu pour prendre notre place devant Dieu, pour porter notre culpabilité, nos péchés, et pour nous orienter vers le Père. Enlevez Jésus-Christ de Noël, et vous ne célébrez que le 25 décembre, un jour comme les autres. Est-ce qu'on est prêt à céder notre place sur la croix? Est-ce qu'on a la capacité de faire de la place pour Jésus? Il y a tant de choses dans nos vies qui ne laissent pas la place à Jésus. Maintenant, il se tient à la porte de votre cœur et il frappe. Si quelqu'un entend ma voix, dit-il, et ouvre la porte, j'entrerai et je souperai avec lui. Est-ce qu'on va lui faire de la place? Marie lui a cédé sa place en disant à l'ange qu'il a annoncé sa venue, « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » À tous ceux qui la reçoivent, il donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il faut qu'on fasse la place à Jésus dans notre cœur. Parce que finalement, c'est lui qui nous prépare une place. Jean 14, versets 1 à 3. « Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. Donc si je m'en vais et vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » C'est lui qui nous prépare une place, si nous sommes prêts à lui en donner une. Seul Marie, celle à qui grâce a été faite, comme le souligne si bien Luc, avait compris en premier la puissance de le symbole de la signification de Jésus sur terre. On peut le voir dans Luc, chapitre 1, 46 à 55. Marie dit alors, « Oui, vraiment, le Seigneur est grand, je chante. Mon cœur est dans la joie à cause de Dieu qui me sauve. Il fait attention à moi, sa servante sans importance. Oui, à partir de maintenant, les gens de tous les temps diront mon bonheur. Le Dieu Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses, son nom est saint. Il sera plein de bonté pour toujours envers ceux qui le respectent. Avec confiance, il agit avec beaucoup de puissance. Il chasse son de le cœur est orgueilleux. Il renverse le roi de leur siège et relève les petits. Il donne beaucoup de richesses à ceux qui ont faim, et les riches, il les renvoie en main vide. Il vient au secours du peuple, son serviteur, n'oublie pas de montrer sa bonté. Voilà ce qui est promis à nos ancêtres, à Abraham et sa famille pour toujours. » Marie resta seule avec Élisabeth pendant 3 mois environ, puis elle retourna chez elle. C'est intéressant comment cette grandeur de Dieu est faite de paradoxes par rapport à la vision que nous avons du monde. Je connais quelqu'un qui travaille pour une compagnie qu'on connaît tous. C'est Mars. Ils font des excellentes barres au chocolat. Ils ont sont également de la nourriture pour animaux. Whiskas. Tout le monde connaît. Ah, il ne faut pas mélanger, mais ils font les deux. C'est une entreprise qui a un succès incroyable, énorme. Leur PIB est égal à celui du Kenya. Vous imaginez? Un pays. Il est chef financier là-bas. Il est très haut dans l'entreprise. Et je me rappelle, il était à un repas d'affaires avec des hommes de cette entreprise. Et ils seront aux toilettes. Et il entend un homme chanter. Oui, le Seigneur est bon, il est bon pour moi. Oui, le Seigneur est bon, il est bon pour moi. Il voit cet homme africain qui est en train de nettoyer les toilettes. Et alors, il est un peu étonné, lui dit, qu'est-ce qui te rend si heureux? Ah, mais c'est parce que Jésus m'aime. Et ça me rend heureux, parce que je suis sauvé. Ces hommes avec qui je mangeais, qui contrôlaient au moins la moitié de la planète, ils étaient tellement pauvres par rapport à cet homme qui nettoyait les toilettes. Et moi, j'ai trouvé ça génial de quelqu'un qui est si haut dans une entreprise de venir à cette conclusion. Du coup, la grandeur de Dieu, elle est faite de paradoxes. La toute-puissance de Dieu se manifeste au travers d'un bébé fragile. Il est dit qu'il renversera leur puissance de leur trône, qu'il chassera les orgueilleux, qu'il comblera de bien les pauvres et les affamés, qu'il renverra les riches et les mains vides. Alors Noël, fête des nantis, des repus, qui passeront à côté des réalités qu'ils ne peuvent pas percevoir, ou bien faites des pauvres, des humbles, qui sauront se placer face à l'enfant de Dieu, tels qu'ils sont, dépouillés de tout ce qui peut leur donner un semblant de pouvoir ou d'autorité. Il faut de l'humilité pour aller devant la croix. À nous de décider, de nous rappeler que Noël, que le Noël que nous voulons vivre, si nous savons aller au-delà d'une fête, du reste bonne et légitime, nous nous apercevrons sans doute que Noël n'est pas un passage unique de l'année, une sorte d'anniversaire fixé arbitrairement au 25 décembre, mais que c'est quelque chose qui s'inscrit dans la durée de nos vies, un événement de chaque instant de notre quotidien. Noël, c'est le Sauveur qui naît dans la pauvreté de sa crèche, de notre cœur. Pour autant que nous soyons dépouillés de ce dernier, tout ce qui peut parfois l'encombrer. Nos soucis, de pointes d'orgueil, nos rancœurs, nos soifs d'autorité, de pouvoir, de bien-être, notre refus de partager, de pardonner. Qui que nous soyons, quelle que soit notre situation, notre statut, pauvres parmi les pauvres, face à Dieu, nous sommes tous les mêmes. Devant la croix, tous au même prix. Dieu Tout-Puissant s'est abaissé à notre condition pour pouvoir nous tirer de l'abîme dans lequel nous nous retrouvons. Si nous sommes conscients de cela, si on est prêt à faire sincèrement cette démarche, alors nous vivrons vraiment Noël. Jusqu'à la redécouverte du sens même de ce mot qui ne signifie rien qu'autre que grande joie, grande nouvelle. Les origines du mot Noël sont un peu diverses et controversées. Mais on peut retrouver son sens latin en Italie, Portugal et Espagne, où en Italie on dit Natal, et en portugais Natal, et en espagnol Natividad. Pour d'autres, les origines du mot Noël sont gauloises. Le mot Noël viendrait de deux mots, noyo, nouveau, et el, soleil. Tous ces mots nous indiquent quelque chose de nouveau, une bonne nouvelle, une naissance, nativité. Au Moyen-Âge, Noël, Noël était le cri poussé par le peuple à l'arrivée d'un heureux événement. C'est quoi cette grande joie qu'on annonce? Si on est conscient de ce qui se passe à Noël, c'est le moment de se rappeler si on est entré dans des rites religieux ou dans une relation réelle. Quand je présente ma foi à beaucoup de personnes, ça n'entre pas directement. Il y a un blocage. On a l'habitude de mettre les gens en boîte, hein. C'est la façon dont on marche. Ah, tu es religieux. Ah, ça c'est vraiment pas ce que j'ai dit. Si on présente ma foi à quelqu'un, s'il dit que je suis religieux, ben, j'ai raté mon explication. Parce que la religion sait faire des choses. La religion sait aller à l'église chaque dimanche avec précision. Puis le lendemain, voilà. On se dit chrétien, on fait des choses, on compte le nombre de bonnes choses qu'on a faites. Mais être chrétien, c'est pas ça, c'est une relation avec la vérité qui est vivante, qui s'appelle Jésus. C'est marrant, on a un esprit grec hein, aujourd'hui, une dichotomie entre la vérité et le mensonge. Si on va dans les racines juives, la vérité c'est quelque chose qui bouge, qui se transforme. Vous pouvez imaginer l'image d'un cœur qui bat. Et je trouve ça très beau pour représenter Jésus. La vérité, c'est vivant, c'est une personne, c'est un Dieu. Et chaque jour, on doit prendre cette décision, de voir si on a envie de vivre avec cette vérité, si on a envie de rappeler le Noël qui est dans nos cœurs. Je voudrais finir avec un passage en hébreu, parce que je vois l'heure et je parle de trop. Hébreu chapitre 10, 5 à 10. Au moment où le Christ va entrer dans le monde, il dit à Dieu, tu n'as pas voulu de sacrifice ni d'offrande, mais tu m'as fait un corps. Les animaux brûlés sur l'autel et les sacrifices pour les péchés ne te plaisent pas. Alors j'ai dit, me voici, je viens faire ce que tu veux. C'est ce qui est écrit à mon sujet dans les livres saints. Le Christ dit d'abord, tu n'as pas voulu de sacrifice ni d'offrande, ni des mots brûlés sur l'autel, ni de sacrifice pour les péchés, ils ne te plaisent pas. Et pourtant la loi demande qu'on fasse tous ces sacrifices. Le Christ dit ensuite, me voici, je viens faire ce que tu veux. Le Christ supprime les anciens sacrifices. Il les remplace par le sien. Jésus-Christ a fait ce que Dieu voulait. Il a offert son corps une fois pour toutes et nous sommes alors purifiés du péché. Alors faisons une place à Jésus ce dimanche. Il y a des gens qui lui montrent les tables. Là-bas, il n'y a pas de place ici. Pour diverses raisons. Ils tiennent Jésus à l'écart. Gardons Jésus dans notre cœur, à la première place, au-dessus de toute chose. C'est un entraînement journalier. Donnons-lui la première place, parce que la place qui nous attend dans la maison de Père, c'est une place d'honneur, celle qui nous garde. Et il y a également une chose, une mission qu'il nous a donnée. C'est cette place que nous avons au ciel, ce royaume. C'est de déjà l'amener sur terre, de déjà le partager aux autres. Donc je n'ai pas envie d'être chrétien parce que c'est bon pour moi. J'ai envie d'être chrétien parce que c'est bon pour tout le monde. J'ai envie d'avoir une église saine parce que c'est bon pour ma commune, pour mon village, pour ma nation. J'ai envie de vivre ma foi parce que j'ai envie d'être une bénédiction pour les autres, plein d'amour. Et moi, c'est dans cet esprit que je vous souhaite de très bonnes fêtes et un très bon Noël à venir. Pour finir, je pense que ce serait approprié de peut-être refaire un chant. Je te donne tout, qui était très très bien choisi. Et ce sera une bonne manière de finir le service ce matin.